Donc, le menu, c'est Marc, chapitre 8. Marc, chapitre 8. Donc, je vais continuer mon plat de spaghettis que j'ai pas fini la semaine dernière. J'aime pas toujours le réchauffer, mais bon. Voilà, il faut passer par là, parfois. Marc, chapitre 8. Et je vais lire à partir de verset 31 jusqu'au chapitre 9, verset 9. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes. Qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as pas des pensées, tu n'as que des pensées humaine. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui prendra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quiconque quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur, il n'y a pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie, Moïse, leur apparut, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire l'effroi, les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendirent de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole et se demanda entre eux ce qu'ils entendaient par résurrection des morts. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut que lui vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toute chose. C'est pourquoi est-il écrit que le Fils de l'homme, qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé. Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon ce qu'il est écrit de lui. Voilà, beaucoup de choses intéressantes dans ce texte. Alors, je vous ai parlé la semaine dernière d'un secret qu'un grand riche milliardaire avait caché dans les rocheuses du centre des États-Unis. Et ce secret, aujourd'hui, il a donné quelques indices. Si vous voulez le chercher, vous n'avez qu'à aller aux États-Unis pour chercher ce trésor. Personne ne l'a trouvé encore pour l'instant, mais j'avais fait ce parallèle avec cette histoire pour indiquer que Jésus a donné quelques secrets, et ces secrets, le Seigneur a donné ici en tout cas, au travers de ces quelques lignes, des secrets, quelques indices en tout cas pour comprendre les secrets du Seigneur. Et le premier secret que nous allons voir en tout cas aujourd'hui et finir, c'est que le premier secret, c'est la souffrance conduit à la gloire. Il n'y a pas de chemin sans la croix. Et je pense qu'un chrétien doit comprendre cela. Il n'y a pas de chemin ici-bas sans la croix. Je pense que Jésus a montré l'exemple. Il va montrer l'exemple à ses disciples. Et je pense que certains disciples prenaient conscience dans leur moment particulier qu'ils étaient en train de vivre avec le Seigneur que ce chemin allait conduire automatiquement à la croix. Et je pense que quand on regarde les quelques indices que nous avons dans ce texte, tout d'abord, le premier indice partagé la semaine dernière, c'est la confession de l'apôtre Pierre, « Tu es le Fils de Dieu ». Et au travers de cette confession, nous voyons que les disciples avaient pris quand même une position verbale devant le Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr qu'ils connaissaient ce qu'ils avaient fait pour le Seigneur. Mais vous allez voir que la deuxième étape, c'est ce que nous allons regarder maintenant, ce matin, c'est le deuxième indice, c'est une confusion. Et il y avait réellement une confusion, c'est-à-dire que malgré le fait que Jésus parlait ouvertement des choses, leur disait ouvertement qu'il devait mourir, qu'il devait aller à Jérusalem pour cela, que les scribes, les pharisiens, les hommes religieux de l'époque, eh bien, allaient le crucifier, eh bien, bien sûr que les disciples, et entre autres surtout Pierre, ne voulaient pas entendre cela. Vous imaginez dans leur cœur avoir le Messie à côté de eux et de dire « Mais non, tu es là, maintenant tu vas vivre avec nous éternellement. Tu vas faire ton royaume ici-bas sur cette terre. » Et c'était la conception que les disciples, enfin que les pharisiens et les scribes donnaient à l'époque, c'est-à-dire l'enseignement qui était apporté par ces personnes-là, on va le voir un petit peu plus loin, eh bien, ils parlaient d'un Messie qui vaincrait leurs ennemis, les ennemis, les nations, qu'ils allaient établir le royaume glorieux d'Israël. Donc vous pouvez imaginer cette attente de la part d'Israël. Et Israël voulait voir cette chose vraiment se confirmer. Donc dans leur cœur, il y avait de la confusion. Et Jésus était en train de leur dire, mais non, le royaume n'est pas ici, le royaume est dans l'éternité. Et il va falloir que je meure, que j'aille sur une croix et que j'aille aussi malheureusement à un moment donné vous quitter. Et les disciples n'acceptèrent pas du tout ça. Il y avait une réelle confusion dans leur tête. Et je pense que c'est bien de se le rappeler parfois. Il nous arrive parfois, nous aussi, même si on a l'Esprit de Dieu, parfois d'être dans la confusion, de ne pas comprendre certaines choses. Malgré les avertissements que nous avons dans la parole de Dieu, il nous arrive parfois de nous inquiéter, d'avoir des doutes, de se poser certaines questions, de vivre certaines situations difficiles parfois dans notre existence. Il arrive parfois que ces confusions reviennent les unes après les autres. Et malgré le fait qu'à un moment donné, Jésus reprend Pierre et il reprend aussi ses disciples, parce que ses disciples pensaient la même chose que Pierre, le Seigneur a remis les choses en place. Et au travers du fait qu'il reprenne Pierre, comme vous avez vu dans le texte, c'est quand même une chose intéressante de savoir que on peut confesser le Christ, mais deux minutes après, on peut dire des grosses âneries. Et ça montre bien que, en tant qu'enfant de Dieu, on devrait apprendre à maîtriser notre langue. On peut dire des bonnes choses avec la langue, avec la bouche. On peut glorifier sa femme, on peut glorifier son mari, et 10 minutes après dire que c'est un gros crétin. Pardonnez-moi de cette expression, mais Vous savez, on est capable de faire ce genre de choses. On est des spécialistes dans ce domaine-là. On peut dire que c'est le plus beau, que c'est le plus merveilleux, mari ou femme. On peut dire que c'est la plus belle. Et 10 minutes après, regardez quelqu'un d'autre dans la rue, on dira, on ne le fait pas exprès, mais des fois, vous savez, on met les yeux là où il ne le faut pas. Et voyez-vous, on est des spécialistes et nous devons bien faire attention de ne pas être une pierre d'achoppement. Et entre chrétiens, parfois, on a cet esprit aussi parfois de confusion. George Campbell Morgan est un évangéliste britannique très bien connu en Angleterre. Il a vécu au XVIIIe siècle. Il était un professeur très connu à l'époque. Et voici ce qu'il a dit un jour dans une de ses prédications. « Quiconque aime Jésus, mais s'éloigne de la méthode qu'il a choisie, est pour lui une pierre d'échauffement. » Je répète. « Quiconque aime Jésus, mais s'éloigne de la méthode qu'il a choisie, est pour lui une pierre d'achoppement. » Voyez-vous, bien souvent, on n'aime pas ce genre de passage. Parce que quand on arrive sur ce genre de passage, on est en train de comprendre une réalité dans notre vie parfois. C'est de prendre sa croix, de renoncer à certaines pensées, à certaines idées, à certaines pensées humaines. Le Seigneur nous demande bien de rétablir parfois certaines vérités dans notre vie. Et nous avons besoin, bien sûr, en tant que disciples, de comprendre cela aussi dans notre vie de tous les jours. Verset 34, on nous donne l'orientation, les conditions pour être un véritable disciple de Jésus-Christ. Nous devons nous abandonner complètement entre ses mains. C'est-à-dire que notre vie, si vous voulez être vraiment proche du Seigneur Jésus-Christ, il faut, si tu veux être un authentique disciple de Jésus-Christ, il faut renoncer à soi-même. Ça veut dire quoi, renoncer à soi-même? Certains pensent qu'il faudrait que j'abandonne une journée par an mon téléphone portable. C'est pas une journée par an qu'on devrait abandonner notre téléphone portable. Si tu veux vraiment être proche de lui, de Jésus, il faudrait que tu apprennes à l'abandonner pratiquement tous les jours ton téléphone portable. Tu l'emporteras pas aussi à ton téléphone portable. Ni ta tablette, ni tes Game Boy, ni vos jeux, vous emporterez rien aussi. Nu vous êtes arrivé, nu vous repartirez aussi. Sans rien du tout. Nous devons nous identifier à lui dans la souffrance, qu'il se charge de sa croix. Alors certains vont dire toutes sortes de choses par rapport à la croix de Jésus-Christ. Quelle est cette croix que je dois me charger? Vous savez, je le comprends au fur et à mesure que j'avance dans la vie. Quand j'ai eu des discussions avec ma belle-mère, il y a quelques mois en arrière, quand elle était toute vaillante, elle me disait, non, moi je ne veux pas devenir un légume, je ne veux pas devenir un légume sur un lit et rester là comme un légume, je ne veux pas ça. Et aujourd'hui, elle est en train de devenir un légume dans un lit. La question, je me dis, mais c'est une souffrance que personne n'aimerait vivre. Je suis persuadé que si demain, on vous dirait que vous allez finir votre vie comme un légume dans un lit, je suis persuadé que vous allez tous lever les mains et dire, non, je ne veux surtout pas ça. Je ne veux surtout pas cette situation. Pas ça, Seigneur Jésus, pas ça. Et pourtant, le Seigneur Jésus permet parfois certaines situations, certaines maladies, certaines épreuves dans nos vies. Et je me dis, voilà où on doit comprendre dans notre existence ce que signifie réellement se charger de sa croix. L'apôtre Pierre a dû le comprendre bien longtemps après. Parce que le Seigneur va lui dire, voilà, tu vas aller dans un endroit que tu ne vas pas vouloir y aller. Et en réalité, l'apôtre Pierre y est allé parce que dans cet endroit-là, il devait glorifier le Seigneur. Nous devons aussi suivre le Seigneur par obéissance et le suivre même si parfois la méthode ne nous convient pas. Suivre Jésus, c'est lui obéir, c'est suivre ce que le Seigneur nous demande parfois dans sa parole. C'est mourir à soi-même, c'est dire, voilà Seigneur, je préfère coûte que coûte pratiquer ta parole, mais ne pas suivre le monde. Et c'est ce qui est important à nos yeux et en tant que chrétien. Bien souvent, on gaspille notre temps. On dilapide, je dirais, le temps que le Seigneur nous a donné. On n'investit pas pour le Seigneur. Bien souvent, dans nos vies, on perd plus que ce qu'on gagne pour le Seigneur. Mais si nous pouvions comprendre que la consécration dans nos vies implique parfois bien certaines choses comme le renoncement, comme se charger et suivre le Seigneur coûte que coûte dans notre vie, ça c'est être authentique aux yeux de Dieu. Troisième indice, la confirmation. Alors, quand on lit ce passage, je me dis, mais au chapitre 9, verset 2 à 9, on se dit, mais pourquoi le Seigneur a choisi que 3 personnes sur les 12? Oui, il a choisi que 3 personnes sur les 12. Il y avait Pierre, Jean et Jacques. Les autres, ils n'ont pas été avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais en même temps, je pense que l'expérience qu'ils ont vécue là est une expérience hors norme. C'est-à-dire, c'est quelque chose que quelques personnes ont vécu là. Et c'était un moment, je dirais, précieux. Même le Seigneur est obligé de fermer la bouche à Pierre. Écoute, arrête de parler, arrête de dire des stupidités. Tu es en train de vivre un moment extraordinaire, vis-le. Un autre texte dans la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient en train de s'endormir, comme dans le jardin de Gethsémané. C'est-à-dire qu'ils allaient louper le moment extraordinaire que Dieu voulait pour eux. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas, de pouvoir dire qu'on va être dans une montagne à un moment donné et vivre une expérience vraiment extraordinaire avec Dieu. Mais en réalité, le Seigneur Jésus-Christ voulait tout simplement une confirmation par la foi. Voilà, vous avez dans la confusion dans votre tête. Maintenant, je vais vous faire une confirmation au travers de mon Père qu'il va vous parler. Alors, il y avait Moïse et il y avait Élie. Alors, Moïse représentait la loi, Élie représentait les prophètes dans cette situation. Et nous voyons bien qu'en réalité, Jésus, Dieu avait placé vraiment ces deux personnes bien particulières. Il n'a pas placé autre personne que ces deux-là, mais c'était pour expliquer en réalité l'ensevelissement, la mort, puisque Moïse est mort par le biais de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui l'a enseveli, Moïse. On ne sait pas où il se trouve. C'est Dieu qui s'est chargé d'ensevelir Moïse. Et Élie représentait l'enlèvement dans le ciel. Donc la résurrection, et je pense que cela, ils l'ont compris bien après cette expérience-là qu'ils ont vécue à ce moment-là. Ils ont compris cela des années après. Le mot transfiguré, en tout cas dans la parole de Dieu, c'est l'explication d'un changement qui est intérieur, qui va de l'extérieur, qui va vers l'intérieur. Donc c'est le contraire de la mascarade. Cette semaine, j'étais en train de rouler en voiture, et puis à un moment donné, j'ai croisé, alors ne le faites pas, mais j'ai croisé des personnes avec des masques, vous savez, des masques d'Halloween. Alors, dans ma tête, je me suis mis plein de pensées. J'ai dit, peut-être qu'ils viennent de faire un hold-up. Hein, vous avez la cervelle, comment elle fonctionne. Hein. Ils viennent de faire peut-être un hold-up, donc je ne les ai pas vus, je ne connaissais pas. Ils sont peut-être sortis d'une fête, d'une soirée, d'une après-midi, enfin, je ne sais pas. Mais enfin, ils étaient tous habillés, vous savez, de manière pour pas qu'on les reconnaisse. Mais voyez-vous, moi, je pense que Halloween, c'est une vraie mascarade, hein, littéralement. Hein. Ce sont des choses que je me dis, mais comment c'est possible que notre peuple français ait pu prendre cette fête et le prendre le bras le corps, c'est-à-dire se faire, je dirais, pour le prétexte de partager des bonbons, de faire ce genre de fête. Elle devrait être interdite dans notre maison, ce genre de fête. Alors ça, c'est ma pensée, hein. Quoique j'aime les bonbons, mais j'attends pas Halloween pour me les offrir, les bonbons qu'on me les offre. En attendant, c'est une vraie mascarade, n'est-ce pas? Mais le Seigneur ne veut pas cette mascarade. Le Seigneur veut vraiment qu'on passe du temps avec lui dans le Saint des Saints. Alors, vous allez peut-être me dire, mais moi je voudrais vivre cette expérience aussi, d'être dans la présence de Dieu. Savez-vous que la parole de Dieu dit clairement que vous pouvez vivre cette expérience tous les jours de votre vie? Il n'y a pas besoin d'aller sur une montagne, il n'y a pas besoin de chercher un lieu spirituel, il n'y a pas besoin d'aller peut-être sur cette montagne-là où Moïse, Jacques et Jean, Pierre, Jacques et Jean ont vécu cette expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous lire quelques passages de la parole de Dieu que je voudrais vous montrer, mesdames ou messieurs, là où vous êtes, que vous pouvez vivre cette gloire avec le Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, le premier passage, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est exactement le même mot en grec que vous avez dans la transfiguration dans l'évangile de Matthieu. C'est exactement le même mot. Donc soyez, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu veux vivre la transfiguration ? Sois transformé. Voilà ce que le Seigneur te demande. Si tu veux vraiment vivre la transfiguration, voir ma gloire dans ta vie, eh bien, sois transformé. Et c'est quand même quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? On peut vivre cela aujourd'hui. C'est une exhortation qui a été donnée à l'église locale de Rome. C'est une exhortation qui est encore valable aujourd'hui. 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. Alors, ces Corinthiens avaient besoin vraiment de comprendre aussi cela. C'est une église, bien souvent, quand on en parle de l'église de Corinthe, c'est une église qui faisait vraiment n'importe quoi. Il paraît qu'ils avaient le Saint-Esprit, pour certains, mais ils vivaient aussi n'importe quoi dans leur vie. Mais regardez ce que Paul, pardon, leur dit à un moment donné. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Je vais lire aussi le verset 17. « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous donc, le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Ce verset dit littéralement, si vous avez accepté Jésus-Christ, vous manifestez le reflet de Christ. C'est ça ce que ça veut dire. Ce verset, c'est-à-dire que vous êtes Christ représenté ici-bas sur cette terre. Alors maintenant, peut-être que vous comprenez mieux ce verset quand il dit « Vous êtes le sel de la terre ». Vous comprenez mieux ce verset ? Est-ce que vous pouvez vous imaginer dans votre tête « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la saveur du monde ». Moi, je pense qu'à un moment donné, on peut vivre cela tous les jours. Avec le Seigneur, on peut vivre cette gloire tous les jours. Simplement, c'est qu'il faut simplement obéir au Seigneur Jésus-Christ. Comme le Père a interrompu Pierre en disant simplement « Écoutez-le, écoutez Jésus. Si vous écoutez Jésus, eh bien, vous allez être un réel disciple, vous allez vivre dans la lumière, vous serez une personne remplie de sagesse, vous serez quelqu'un qui serait renouvelé par l'Esprit de Dieu. Quand vous passerez dans la vallée de la difficulté ou de l'épreuve, eh bien je vais vous montrer que je serai là et je vais vous accompagner, même dans ces moments les plus difficiles. Je pense que nous avons besoin, en tant qu'enfant de Dieu, de comprendre certaines choses comme cela. Beaucoup de disciples pensent que pour être dans la gloire de Dieu, il faut vivre des visions spectaculaires. Je viens de vous montrer la preuve qu'il n'y a pas besoin de visions spectaculaires pour être dans la gloire de Dieu. Il y a simplement besoin d'être transformé. Et transformé, c'est de notre responsabilité. C'est nous qui devons faire l'effort pour être transformés. C'est de notre responsabilité. Tu veux vivre dans la gloire de Jésus? Sois transformé dans ta vie. Renouvelle ton intelligence. Si tu veux être proche de Dieu, pratique la vie chrétienne. Pratique ce que tu lis dans la parole. Et ça demande parfois, vous savez, de dire, eh bien voilà, je veux vivre vraiment comme le Seigneur Jésus-Christ. Ça demande parfois de renoncer à soi-même. Ça demande parfois de renoncer à son smartphone. Je ne sais pas si... Je vais oser. Est-ce que si demain, on vous dirait, allez, jetez tous vos smartphones dans la poubelle. Bon, vous n'avez pas eu trop de réactions. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à les jeter à la poubelle. Alors le monde nous encourage parfois à le faire, de vivre une journée sans téléphone.
Ça dépend ce que tu fais.
Voilà, non mais laissez-moi finir ma pensée. Le monde vous dit parfois de faire une journée sans téléphone. Est-ce qu'on a besoin d'écouter le monde pour nous dire que ce téléphone parfois prend tellement de l'ampleur dans notre vie que nous négligeons ce qui est essentiel avec le Seigneur Jésus-Christ? Moi, le monde, quand il me dit ça, je me dis c'est que peut-être cette humanité a vraiment se fait manipuler par cette affaire du téléphone. J'ai rencontré un missionnaire américain il y a quelques jours. Aux États-Unis, Trump, le président Trump, a envoyé 250 millions de SMS sur tous les téléphones aux États-Unis. Le même jour, les 250 millions de personnes ont reçu le SMS sur leur téléphone portable. Moi, ça me fait flipper. Vous savez, le téléphone portable, aujourd'hui, si on veut savoir où c'est que vous êtes, l'État sait exactement où c'est que vous êtes. Si vous ne voulez pas savoir où c'est que vous êtes, il suffit de mettre votre téléphone portable très très loin, pour pas qu'on sache où c'est que vous êtes. Voyez-vous, moi je me dis des fois, alors, comprenez ce que je dis, je ne veux pas vous dire demain, allez jeter le téléphone portable. et puis revivez avec le vieux téléphone, avec le fil, tout ça. De toute façon, bientôt on n'aura plus les lignes au téléphone. On vit tellement avec la Wi-Fi aujourd'hui que bientôt ces fils, on ne les aura plus à la maison. Mais voyez-vous, je me dis des fois, moi j'ai l'impression aujourd'hui que ce monde est en train d'être dirigé par le diable. Et on nous en éloigne, on nous éloigne de plus en plus de Dieu, petit à petit. Alors, vous allez dire, ouais, mais le téléphone ne me manipule pas. Moi, je maîtrise le téléphone. Alors, je vous ai déjà vu, hein, certains. Je ne sais pas si c'est le téléphone que vous maîtrisez ou si vous maîtrisez le téléphone. Même moi, parfois, je me suis dit, je ne prendrai jamais le téléphone dans la voiture. Et quand il sonne, c'est automatique. Et je pourrais prendre un PV, hein, si jamais on m'attrape. Je pourrais prendre un PV. Mais voyez-vous, on est vraiment manipulé par parfois certains instruments qui deviennent vraiment un esclavage, littéralement, dans nos vies. On doit faire vraiment très attention. Tu veux vivre dans la gloire de Dieu? Eh bien, mets de côté parfois certaines choses du monde qui t'en éloignent malheureusement petit à petit. Quatrième indice, c'est la correction. Les disciples avaient besoin d'être remis un petit peu sur le droit chemin par rapport à ce qu'ils ne comprenaient pas par rapport à Élie. Et le Seigneur vient d'expliquer tout simplement qu'en réalité, Élie, ben c'était Jean-Baptiste, hein, et les disciples ne comprenaient pas ça dans leur tête. Ils avaient besoin d'être recadrés, ils avaient besoin qu'on leur explique un petit peu certaines choses. Et en même temps, bien sûr que il y a un deuxième Élie dans la parole de Dieu, mais certains commentateurs le placent par rapport à Apocalypse chapitre 11, avec la deuxième venue, donc dans la nation, dans le monde, par rapport à Dieu. Donc il y avait là une confusion, parce que tout simplement les religieux de l'époque mettaient cette confusion, ils ne le faisaient pas exprès. Mais il y avait là une confusion et les disciples, eh bien, ils étaient enseignés comme les religieux de l'époque. Et dans leur tête, ils avaient malheureusement, ben, tout simplement pris cette religion de l'époque. Et cela me montre bien que quand on vient à l'Évangile, quand on vient à Jésus-Christ, eh bien, souvent, on vient avec le bagage que nous avons vécu dans le monde. Ça peut être pour certains, une religion, on était avant dans un mouvement ou pas. Certains, ben, c'était dans le monde, on vivait dans notre monde. Quand on nous parle parfois de témoigner de notre foi, eh bien, vous allez entendre, eh ben voilà, j'étais comme cela auparavant. Eh bien oui, automatiquement, quand on arrive dans la vie chrétienne, il y a quand même une influence qui vient au travers de notre esprit. Je vais vous donner l'exemple. Pour certains qui vont vivre bientôt la Toussaint, mon frère pense que je suis un pasteur, alors il sait que je suis pasteur, mais que je devrais aller ce jour-là prier sur la tombe de ma mère et de mon père. Alors je lui ai dit, j'ai bien marqué ma différence, je suis un pasteur protestant, donc je proteste. Je lui ai dit que je ne peux pas, ça tu ne peux pas me demander ce genre de choses. Mais il insiste, et il revient régulièrement, et si je ne le fais pas, eh bien, pour lui, c'est pas normal. Alors, chaque fois, je proteste. Je lui dis, non, tu ne me feras pas faire une chose pareille. Mais si tu veux, je peux aller mettre des fleurs à mon père et à ma mère un autre jour, parce que je suis quelqu'un de tolérant. Moi, aller sur une tombe, ça ne me dérange pas. Je peux aller mettre des fleurs, mais pas le jour de la Toussaint. Le jour de la Toussaint, c'est pour vénérer les morts. Enfin, si vous connaissez le système de la France, de la religion par rapport à ce moment-là, c'est pour vénérer les morts, et moi je ne vénère pas les morts. Le Seigneur dit qu'il est le Dieu des vivants, moi je veux vénérer les vivants. S'il y avait des fleurs à offrir, c'est maintenant qu'il faut les offrir, les fleurs. N'attendez pas le jour de votre mort pour attendre de vos enfants des fleurs. C'est maintenant que vous devez offrir des fleurs à vos femmes et à vos maris, enfin, si vous avez envie d'offrir des fleurs. Mon frère n'a jamais offert une seule fleur à sa mère durant son vivant. Aujourd'hui, il se culpabilise. Et il va offrir des fleurs sur la tombe de ma mère et de mon père. Un jour, j'ai été obligé de lui dire comme je proteste, que je veux lui montrer que je suis un protestant, que je proteste. Donc je lui ai dit, mais mon frère, tu n'as jamais offert des fleurs à papa et à maman durant leur vivant. Pourquoi aujourd'hui? Et il m'a dit, tout naturellement, j'ai des regrets dans mon père. Et ces regrets, malheureusement, vont le poursuivre durant toute sa vie. Et ça me fait de la peine, n'est-ce pas? Mais l'humanité vit comme cela aujourd'hui. On vit avec des regrets parce qu'on n'a pas, à un moment donné, réglé certaines choses. On n'a pas réglé le péché. On n'a pas confessé certaines choses. Et on vit avec le regret parfois. Et on a besoin parfois, comme le Seigneur nous rappelle, une correction. On a besoin d'être remis parfois sur le bon chemin pour qu'on nous dise, là, tu as fait une erreur. Tu dois te remettre sur le bon chemin. Alors, j'attends maintenant la mise en pratique. Mesdames ou les mamans, j'espère que vos enfants vont vous offrir les plus belles roses du monde à partir de demain. Parce que ça, c'est la vie pratique. Moi, ma belle-mère me disait tout le temps, je ne veux pas de fleurs. Le jour que vous allez m'enterrer, je ne veux pas de fleurs. Alors j'ai dû faire une promesse, je ne mettrai pas de fleurs, parce que j'ai fait cette promesse à ma belle-mère. Et je n'ai pas envie de vivre avec des regrets. J'ai aimé ma belle-mère, j'aime encore ma belle-mère aujourd'hui, de son vivant. Mais le jour où elle va partir auprès du Seigneur, c'est elle qui sera la plus heureuse que moi. Dans la félicité, elle sera la personne la plus heureuse que moi. Alors c'est vrai, je vais perdre un être cher. Hier soir, quand le médecin, enfin les infirmiers nous ont dit d'aller, parce qu'il y avait un moment difficile, les infirmiers nous ont dit, il y a un moment difficile, peut-être qu'il faudrait venir un peu la calmer, votre maman. Donc ma femme m'a téléphoné, et puis je suis allé, j'ai pris sur les ailes de la foi, parce qu'elle connaît ce cantique, et quand je suis arrivé sur son lit, on a fait ce qu'on faisait à la maison. À la maison, on priait, on prenait du temps, on lisait les cantiques. Et je lui ai pris les cantiques qu'elle préférait, qu'elle repos céleste. Au bout de 10 minutes, ma belle-mère s'est calmée. Parce que tout simplement, elle a entendu les cantiques qu'elle a aimé chanter durant sa vie chrétienne. Voyez-vous, je me dis, le Seigneur, si aujourd'hui vous fait apprendre des cantiques par cœur, c'est parce que peut-être un jour vous en aurez besoin. Si le Seigneur vous fait apprendre des versets de la Bible aujourd'hui, c'est parce que peut-être demain vous en aurez besoin. Si le Seigneur vous demande de prendre du temps avec la parole de Dieu, c'est parce que peut-être demain vous en aurez besoin. Et je pense que négliger la parole de Dieu, nous fait prendre conscience que à un moment donné, quand on en aura le plus besoin, on va devenir des personnes tout simplement oublieuses. Dieu vous a donné des secrets. Mais ces secrets, il vous a donné aussi des indices pour que vous puissiez pratiquer votre vie. Vous avez besoin parfois de confesser Jésus-Christ. Et on a besoin de confesser. Je pense que dans nos milieux évangéliques, on confesse rarement. J'ai déjà dit, je le dis encore aujourd'hui, c'est rare dans les églises de dire « Ah, j'ai péché !» C'est rare de dire ça. J'ai besoin de me repentir, de demander pardon au Seigneur pour telle et telle situation dans ma vie. Mais ça fait partie de la vie chrétienne. Il nous arrive parfois aussi, malheureusement, d'être dans la confusion. Et quand on lit certains passages de la parole de Dieu, quand on voit certaines situations que nous vivons dans notre vie, On est parfois dans la confusion, mais le Seigneur ne nous a jamais laissé dans la confusion. Il ne vous a jamais dit, et dans la parole, il n'est pas dit qu'il faut que vous allez chercher un trésor dans les rocheuses américaines. Moi, je vous décourage d'aller là-bas, vous n'allez pas le trouver, parce que peut-être qu'il n'y en aura pas. Le vrai trésor, c'est la parole de Dieu. Voilà. Si vous comprenez cela, il n'y a pas besoin d'aller ailleurs. Vous allez perdre votre temps. Que sert-il de le monde entier si vous perdez votre âme? Vaut mieux être avec le Seigneur. Hein. Là, il n'y a pas de confusion à avoir. La deuxième chose, c'est une confirmation. N'attendez pas d'aller dans la montagne pour vivre des moments spectaculaires avec le Seigneur. Je vous ai montré des textes de la Bible. Et j'ai été gentil avec vous, j'en ai cité que deux. J'aurais pu vous citer d'autres textes dans la parole de Dieu. Il y a des tas de passages dans la parole de Dieu qui disent qu'on a un moment privilégié ici-bas sur cette terre. Même si on vit des fois des moments difficiles, on a des moments privilégiés avec le Seigneur. Et pour finir, on a besoin parfois d'être corrigé. Une correction de la part du Seigneur. Dieu prend vraiment prend son temps avec nous. Hein. Vous savez, des fois, on est des personnes difficiles, dures. Et le Seigneur prend son temps. Et il reprend son temps. Et il prendra encore son temps vis-à-vis de nous. Pour nous expliquer la parole de Dieu. Pour nous dire, voilà les choses que je veux que vous sachiez au travers de la parole de Dieu. Et il va prendre son temps, comme il a fait avec les disciples. Les disciples n'acceptaient pas que le Seigneur soit crucifié. Et durant tout son voyage, parce que vous allez le voir à partir de ce moment-là, à partir de ce moment où Dieu, où Jésus a dit clairement les choses, eh bien, petit à petit, le Seigneur va expliquer les choses durant son voyage ici-bas. Et le Seigneur veut nous expliquer les choses, veut que nous connaissions l'essentiel dans la parole de Dieu. Le Seigneur veut que nous connaissions, des fois on a besoin gentiment d'être corrigé de la part de Dieu, mais il va prendre son temps avec vous pour vous expliquer les choses. Le premier secret que je voulais partager avec vous, la souffrance conduit à la gloire. Il n'y a pas de chemin ici-bas sans la croix. Amen.
Amen.
Je vais prier.